Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Les musées sont fermés, mais les galeries d'art, elles, sont bien ouvertes. Et c'est une raison supplémentaire de découvrir l'exposition dédiée au peintre abstrait américain Mark Tobey, en ce moment et jusqu'au 12 février, à la galerie Jeanne Bucher-Jaeger à Paris. C'est le poète et essayiste Stéphane Lambert qui est avec nous ce soir. Comment considérez-vous l'œuvre de Mark Tobey au regard de ses contemporains? Comment finalement peut-on expliquer qu'il soit moins montré, moins connu que les autres peintres abstraits du XXe siècle?
Alors, moi j'ai un peu de mal à le considérer dans l'école, on va dire, si on considère que c'est une école de l'abstraction lyrique ou de l'expressionnisme abstrait, selon comment on l'appelle. Parce que déjà, il est au niveau générationnel, il est plus âgé que les grands représentants de ce mouvement, que sont Rothko, Pollock, qui sont nés après 1900. Lui, il est né en 1890. Et d'ailleurs, il a dit plusieurs fois que sa référence, lui, c'était Klee, Paul Klee. Et donc, qui, lui, était né 10 années encore avant Tobey. Donc, il est un peu à l'intermédiaire, en fait, entre la modernité du début du XXe siècle et cette modernité du milieu du XXe siècle que va incarner l'expressionnisme abstrait. Il a beaucoup de divergences, quand même, dans sa façon par rapport aux expressionnistes abstraits, puisqu'ils sont connus, évidemment, pour à la fois le côté spectaculaire de leur œuvre, qui saisissent tout de suite, qui happent tout de suite, tandis que les œuvres de Tobey nécessitent quand même une attention, ce qui fait que souvent d'ailleurs ils passent inaperçus dans les collections des grands musées, surtout américains. Même moi, hein, je dois dire que longtemps j'ai ignoré Tobey, et j'ai d'ailleurs consacré un livre à Rothko, dont les œuvres sont beaucoup plus monumentales. Et donc effectivement, les œuvres de Tobey sont aussi de très petite taille, donc cette attention est encore plus nécessaire pour les apprécier. Ces œuvres de grande taille de l'expressionnisme très américain correspondent quand même à toute cette esthétique de cette jeune peinture américaine, grande partie sauvage, et donc qui exprime un peu ce renouveau d'une terre un peu vierge. Tobey, on va dire qu'il a été directement happé par d'autres cultures, par une nécessité de s'intéresser et même peut-être de synthétiser une forme d'universalité. Déjà, il n'est pas resté toute sa vie du tout à New York. Il s'est installé à Seattle, donc sur l'autre côte. Hein. Et donc, il n'était pas dans cette même frénésie de la création. Et en fait, en étant sur la côte pacifique, il était à la fois aussi à l'intermédiaire. Je parlais d'intermède temporel tout à l'heure, entre le 19e et le 20e. Là, il est entre Occident et Orient, en fait. Et très vite, il a rencontré un jeune étudiant chinois qui l'a initié à la culture chinoise, à l'esthétique chinoise, à la calligraphie. Il a assimilé ça assez vite. Après, il s'est converti à cette religion, le bahaïsme, qui est une religion apparemment dérivée de la religion de l'islam, mais qui tend vers une universalité spirituelle, essayer de trouver une espèce de convergence ou d'œcuménisme dans les croyances, dans les foi.
C'est une des caractéristiques, j'ai l'impression, quand on se promène dans la galerie et qu'on s'immerge dans les œuvres de Mark Tobey, c'est cette mystique qui transparaît de tous ces petits formats dont vous parlez.
Bon, mais ça, c'est quand même un point commun avec, je pense, les gens de l'expressionnisme abstrait. D'ailleurs, Tobey aimait beaucoup Rothko. Il y a une quête spirituelle et de toute façon, moi, j'ai toujours été attiré par les artistes dont la quête formelle épousait la quête spirituelle. Et ça, c'est sûr que Tobey s'inscrit dans cette approche-là, c'est-à-dire que l'art est une manière, effectivement, de formaliser une quête intérieure. Et toute sa recherche, en fait, épouse ce questionnement-là, à travers, effectivement, toutes ces rencontres culturelles qu'il a faites, hein, et qui ne se limitent pas, effectivement, à la culture américaine ou même européenne, comme c'est le cas de Rothko, mais qui vont beaucoup plus loin, jusqu'en Extrême-Orient.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, quand vous observez une œuvre de Mark Tobey ?
J'aime bien quand il parle du lien avec Clé, parce que je le sens assez fort. Il y a une espèce de fond qui est plus lointain que, évidemment, notre conscience, ça c'est sûr, et peut-être même que notre inconscient qui nous rattache à une espèce de communauté ancestrale. Dans le catalogue, il y a d'ailleurs une interview d'Étienne Klein, et j'étais très sensible à une chose dont il a parlé d'un point de vue physique, parce que c'est intéressant de voir que le spirituel rejoint la physique. Et il décrit un phénomène qui s'est passé après le Big Bang. Je ne sais pas si Tobé était au courant de tous ces phénomènes physiques, mais en tout cas, je suis sûr qu'il les pressentait. Et ça s'appelle en fait la radiation fossile. Et c'est dans les 350 000 premières années de notre univers. La lumière n'a pas pu se propager comme c'est le cas aujourd'hui parce qu'elle a été bloquée par la matière. Et de ces 350 000 années, il reste une trace, une empreinte dans l'univers, en fait, qui est non perceptible à nos sens. Nos sens ne sont pas assez pointus pour les percevoir. Et je trouve que ça va très très bien à l'univers à la fois de Tobé et de Clé. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de toucher à quelque chose d'extrêmement profond qui est englouti même dans nos abysses les plus profondes du vivant, en fait.
Ce sont des petits formats, vous l'avez dit, et ce qui est aussi étonnant quand on visite l'exposition, c'est que à la fois on a besoin de s'approcher très près pour voir les détails de ces œuvres qui sont quand même très denses, c'est petit mais c'est très dense, et aussi on a besoin de s'éloigner pour avoir une vue d'ensemble. Est-ce que vous pensez que son travail était également de jouer justement sur ces échelles? Vous parliez du cosmos, est-ce qu'on est dans l'infiniment grand et l'infiniment petit condensé?
Oui, mais alors là, c'est quand même intéressant aussi de revenir sur un facteur biographique, qui est que sa mère était couturière. Et donc la couture, c'est quand même un travail de haute précision et très très confiné. On a toujours ces images de couturière recourbée avec une petite lumière qui éclaire le travail qu'ils sont en train de faire. Et Tobé le dit lui-même qu'il a été, enfin, il voyait évidemment sa mère coudre en permanence et que ça a vraiment influé sur sa manière aussi de ressentir les choses. Son père était charpentier. Et donc je trouve que l'association des deux, c'est un peu facile, mais c'est quand même intéressant, c'est de faire des structures avec du fil. Et ses œuvres, c'est un peu ça. Ce sont des petites, alors effectivement des petits formats, parce que je pense qu'il sait très bien aussi que dans le microcosme, il y a une espèce de concentration du macrocosme. Et donc, il y a cette précision dans l'infiniment petit. Mais il y a aussi quelque chose de très concret et matériel qui est l'origine de ce fil de sa mère. Et quand on prend aussi chronologiquement comment il est arrivé à cette abstraction avec ses petits signes, cet alphabet sans sens, un peu kabbalistique comme ça. C'est toujours à la limite entre des figures et de l'écriture, un peu comme chez Clé, ça d'ailleurs. Mais il est arrivé à ça aussi, d'une certaine manière, par la représentation, parce que c'est la sensation du rythme de la ville qui l'a fait, dans les années 30, basculer vers l'abstraction. Et donc il a essayé de rendre ça, en fait, cette frénésie, ce rythme, ce mouvement de la ville, avec cette idée de fil, effectivement. Comment trouver ce qui relie l'ensemble des choses?
L'exposition, qui peut aussi se visiter en ligne, s'accompagne d'un très beau catalogue, Tobé A Not To Be, disponible chez Gallimard, dont vous signez un des textes. Merci beaucoup Stéphane Lambert.
Merci à vous Marie Sorbier.